Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Une fois n'est pas coutume, nous sommes en direct aujourd'hui, lundi, le 9 mars, depuis le studio de Bernard Dimet, le studio de la radio. Et aujourd'hui, je n'ai plus de retour. Je ne sais pas si mon micro marche, mais en tout cas, c'est un nouvel hors-série de Ainsi va la ville, puisque nous vous proposons un format d'actualité consacré aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Pour en parler avec nous, trois invités aujourd'hui, à la fois observateurs, observatrices et acteurs, actrices de la politique, de la vie politique locale. On est heureux d'accueillir Manon Loisel. Bonjour Manon.
Bonjour.
Hugo Christy. Bonjour Hugo.
Bonjour Paul et merci de me recevoir. Je me sens un peu habitué maintenant de ton plateau.
Et Ayodele Ikuezan. Bonjour Ayodele.
Bonjour Paul.
Alors, pour vous présenter, donc Manon Loisel, toi tu es politiste, co-autrice de l'ouvrage « Pour en finir avec la démocratie participative » publié en janvier 2024 aux éditions textuelles avec Nicolas Rio, qui est ton associé au sein de l'agence Partie Prenante. C'est avec lui également que vous écrivez tous les mois depuis un an une lettre aux 500 000 élus municipaux. Ayodele Ikuezan, toi tu es élu local dans le 18e arrondissement, donc merci de nous recevoir.
À domicile.
Donc l'arrondissement de Cause Commune, où tu étais maire adjointe en charge de la santé et de la réduction des risques durant le mandat qui se termine. Tu es membre du collectif Démocratiser la politique, dont on a déjà parlé lors d'une émission précédente, mais sur lequel on reviendra. Ancienne athlète olympique, tu es consultante en transformation des organisations et conduite du changement, et actuellement en campagne à la tête d'une liste citoyenne intitulée « Le 18e, c'est nous ».
Exactement.
Et enfin Hugo, donc les auditeurs, auditrices d'Ainsi va la ville commencent à bien connaître, urbaniste et journaliste, maître de conférences à l'école urbaine de Sciences Po et cofondateur de l'association Surface Plus Utile. Merci à tous les trois d'avoir accepté de venir sur le plateau de Cause Commune. Peut-être, premièrement, je me tourne vers toi, Ayodele. Là, tu es actuellement en campagne sur une liste citoyenne. Peut-être en deux mots, que défend la liste Le 18e, c'est nous ?
Alors, Le 18e, c'est nous, c'est une liste citoyenne composée du coup de citoyens, de citoyennes engagées localement. On défend plus de parité sociale, donc une liste qui représente un peu plus socialement la diversité de notre arrondissement. On défend aussi le fait de pouvoir traiter les vrais sujets, en tout cas qui nous sont remontés par les habitants, avec des sujets autour du logement, que ce soit les écoles, que ce soit la jeunesse, le monde associatif. Pardon. Et surtout, le fait que on considère que les politiques sont malheureusement aujourd'hui un peu trop éloignées des problématiques de terrain, et on veut que les citoyens puissent se réapproprier la démocratie à l'échelle locale, donc tout plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a monté cette liste pour ces municipales.
Mais alors, peut-être pour expliquer aux auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'une liste citoyenne fait de différent, ou comment est-ce que son fonctionnement est différent d'une liste d'un parti politique ou d'une liste traditionnelle ?
On fait à peu près tout différemment. Par rapport à un parti, on n'a pas le réseau, on n'a pas ni les moyens, on n'a pas non plus le temps. C'est-à-dire que ce sont des citoyens, des personnes qui travaillent dans l'arrondissement et qui se dégagent du temps en fin de journée, en début de journée, pour venir tracter. Ce qu'on fait de différent, c'est qu'on essaye aussi d'apporter notre propre expertise et notre connaissance des sujets que l'on vit au quotidien. Sur cette liste-là, on a fait aussi en sorte d'avoir une diversité de citoyens, la diversité des différents quartiers, parce que dans le 18e, en fonction de là où vous habitez, vous avez des réalités qui se croisent avec des sujets qui reviennent assez souvent, que ce soit autour de la dignité, de la propreté, de la sécurité, les écoles. Il y a des sujets qui sont assez communs à tous les quartiers. Néanmoins, le fait d'habiter dans un quartier, de pouvoir croiser des gens, ça apporte autre chose. Et puis, il y a le fait aussi que quand on est citoyen, on ne sait pas vraiment comment se présenter. C'est-à-dire que très souvent, les partis viennent nous expliquer comment voter et que c'est important de voter, mais on nous accompagne pas du tout sur le fait de pouvoir se présenter. Et c'était aussi une des remarques, et nous, ce qu'on porte à travers cette liste, c'est qu'on a des habitants du 18e, mais aussi des enfants qui ont grandi dans le 18e, des personnes de classe populaire, qui découvrent aussi comment se passent les élections, le timing, l'emploi du, enfin, l'organisation, le calendrier, des choses qu'on nous communique finalement jamais. Et donc, quelque part, pour nous, il y a aussi cette vocation à faire de l'éducation populaire pour que les citoyens ne soient pas juste dans une position de constater un peu malheureusement que l'offre politique ne correspond pas aux attentes, mais de pouvoir aussi être force de proposition. Et donc, ce qu'on propose aussi, c'est que les gens puissent voter par conviction plutôt que de voter à chaque fois pour faire barrage ou vote utile.
Manon Loisel, toi qui es politiste, est-ce que c'est quelque chose qu'on observe un peu partout en France, ces listes citoyennes, des citoyens qui, en dehors des partis politiques, décident de s'impliquer en politique ?
Oui, c'est quelque chose qu'on observe un peu partout en France. C'est pas la première fois. En 2020, déjà, on avait une poussée, une émergence de tout un tas de listes citoyennes, notamment pas mal coordonnées par un réseau qui s'appelle Fréquence Commune. Et là, de nouveau, on le voit sur les listes qui ont été déposées, il y a tout un tas de listes citoyennes. Il y a 682 listes citoyennes et participatives qui se sont montées. Donc c'est bien plus que ce qu'on appelle la vague brune et que les médias retranscrivent beaucoup. On nous a beaucoup parlé de la montée en puissance d'une vague brune qui ferait suite à la vague verte des années de 2020.
La vague brune, c'est la multiplication de listes d'extrême droite.
Exactement, qui est quand même pas mal relayée par les médias, notamment les médias nationaux. En fait, ce qu'on constate, c'est que la vague participative et citoyenne, en tout cas sur la ligne de départ, est plus intense et plus haute que la vague brune, quoi. Donc c'est une dynamique qu'on observe un peu partout, avec, je trouve, beaucoup d'intérêt, parce que ce sont des équipes et notamment des candidats qui s'attaquent un peu au fonctionnement interne des collectivités. C'est-à-dire que c'est des citoyens qui disent « Nous aussi, même si on n'est pas des professionnels de la politique, on peut y aller et on peut faire de la politique autrement. » Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, c'est que d'une certaine façon, ils vont s'attaquer au dysfonctionnement interne de l'action publique locale. Et donc, ils vont se retrousser les manches pour se poser la question de comment fonctionne un conseil municipal, comment fonctionne l'action publique et donc comment on met en place des services, etc., etc. Et donc, voilà, ils se retroussent les manches pour y arriver.
C'est une question, on a l'impression, de légitimité, de se sentir légitime en tant que citoyen en dehors d'un parti politique pour se présenter à une élection. Comment est-ce que vous avez passé le pas ? Comment est-ce que vous avez décidé de vous présenter, de sauter le pas ? Est-ce que ça a été une décision collective, individuelle ? Et comment vous avez formé ce collectif Ayodele Cousin ?
Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, donc moi je suis sportive et c'est vrai que le passage, on va dire, à l'action vient de mon expérience en tant que sportive, de me rendre compte que la diversité sociale ou même la diversité tout court à l'échelle sportive, on la retrouve dans le terrain et pas dans les instances, et que sur le projet de loi démocratiser le sport en France, le fait d'avoir été dans les instances de décision ont fait qu'on a pu porter la création de commissions d'athlètes dans les fédérations, mais au bout de 2 ans, en insistant vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'en étant adjointe là à la mairie, j'ai un peu découvert comment ça se passait, le concept aussi de tokenisation dont on parle aussi dans démocratiser la politique, avec cette diversité que l'on retrouve sur les photos, mais que finalement on retrouve pas soit en haut des listes, soit dans l'accompagnement pour que les élus issus de classes populaires puissent vraiment porter de manière très autonome leur mandat et les projets qu'ils veulent porter.
C'est ça la tokenisation ?
C'est ça. C'est vraiment de prendre des gens pour ce qu'ils sont, mais de leur donner aucun moyen de faire quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le principe de le profil nous convient bien, ça nous permet de raconter une histoire sur laquelle on va surfer, mais derrière, ces personnes-là, généralement, n'ont pas la possibilité de porter les projets et de faire d'autres choses.
Manon.
Juste pour rebondir, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que dit Ayodele et qui montre bien, je pense, un changement entre 2020 et 2026. En 2020, quand il y a eu l'émergence de tout un tas de listes participatives et citoyennes, en fait, on s'est rendu compte, en faisant le bilan, qu'elles étaient très homogènes socialement. Qu'en gros, c'était plein de gens très motivés pour prendre le pouvoir à l'échelle municipale, mais qui souvent étaient plutôt surreprésentés les catégories sociales supérieures, quoi. Et là, j'ai l'impression que avec l'émergence de tout un tas de travaux, notamment ceux de démocratiser la politique, on voit bien qu'il y a un enjeu à faire en sorte que ces listes-là, elles soient beaucoup plus attentives à la juste représentation de tous et de toutes et de toutes les catégories sociales notamment. Et du coup, il y a des endroits, par exemple à Poitiers. Poitiers, c'est une liste citoyenne qui a émergé, mettons à sa tête Léonore Monconduit en 2020. Ce qui s'est passé là en 2026, c'est qu'ils ont tellement travaillé sur les questions de parité sociale qu'une bonne partie du collectif qui avait été formé autour de Poitiers Ensemble, Poitiers Solidaires, je ne sais plus, pardon
Poitiers
à eux.
Citoyens.
De la dynamique citoyenne à Poitiers, c'est que ce qui s'est passé là en 2026, c'est qu'une bonne partie des gens ont dû sortir pour faire rentrer des gens plus représentatifs de la population, notamment des gens moins diplômés, avec des niveaux de revenus moindres, etc. Donc, on voit bien que là, les listes participatives, elles montent aussi en maturité là-dessus, et sur la question de comment est-ce que, voilà, on fait toute sa place à la parité sociale et la juste représentation de la diversité.
Hugo Christie.
Oui, c'est vraiment salutaire les cas dont vous nous parlez, dans le cas d'Ayodele, le cas qu'elle porte même personnellement. Je pense qu'il y a en plus un échelon encore supérieur qui est un peu délétère. Il faut se souvenir qu'une élection municipale, c'est pas une élection à deux tours comme les autres. Il y en a au minimum trois, parce qu'en fait, après, les maires et les exécutifs sont nommés par des conseils municipaux. Donc, ce qui fait que pour des publics, on retrouve en fait les jeux d'appareil à ce troisième tour, notamment pour nommer les adjoints, etc. Donc, ce niveau de la représentativité, il est crucial à maintenir aussi à cet échelon-là. Et il y en a même un quatrième, qui est l'échelon intercommunal, métropolitain, le plus souvent, et où alors là, le couperet est absolument décisif. On voit, les Français connaissent leur communauté d'agglomération ou leur métropole, même si à Paris, on la connaît beaucoup moins, la métropole du Grand Paris, et où là, on voit que c'est vraiment les jeux d'appareil sont prédominants au point d'évincer absolument tout ce qui ne serait pas catégorie sociale supérieure. Or, c'est là aussi que beaucoup de choses se jouent aussi dans l'action publique et dans les résultats que la politique peut délivrer sur le terrain.
Oui, c'est vrai qu'on a en France, là on est dans une situation paradoxale dans laquelle en même temps on est donc le dimanche prochain, les 15 et 22 mars prochains auront lieu ces élections municipales qui sont les élections censées être les élections préférées des Français, avec ce niveau local auquel les Français sont extrêmement attachés, et en même temps avec la répartition des compétences fait que les décisions, les compétences sont de plus en plus concentrées à un niveau intercommunal, ce qui a peut-être, sans doute, en tout cas moi je le défendrai personnellement, des vertus en termes de fonctionnement territorial, etc. Mais par contre, démocratiquement, c'est quand même, ce sont des décisions qui sont prises par des gens qui ne sont pas élus au suffrage universel direct et qui sont élus indirectement. Est-ce que au sein de démocratiser la politique, peut-être revenir deux secondes sur qu'est-ce que démocratiser la politique, et est-ce que c'est déjà des réflexions que vous avez en tête? Est-ce que vous avez déjà des données aussi là-dessus?
Alors, démocratiser la politique, c'est un collectif qui a été créé il y a 3 ans autour de cette question de est-ce que les aventures que certains membres du collectif avaient rencontrées pendant les législatives en 2022, à savoir être complètement écartés des investitures des partis bien que natifs de ces circonscriptions, est-ce que c'était des problématiques individuelles ou est-ce que c'était une problématique systémique? Et donc ça a consisté à analyser pendant 3 ans plus de 30 ans de résultats électoraux à toute échelle en France.
Et donc c'est un collectif national.
On a un collectif national avec 4 grosses régions représentées, notamment l'Île-de-France, le Nord à Roubaix, l'Ain en Rhône-Alpes et puis Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Et donc ça a été d'analyser tout ça et d'arriver à un produit de sortie dans le rapport qui s'appelle Tous les mêmes, où on montre cette surreprésentation des classes supérieures en politique. On montre aussi que le débat sur l'absence d'engagement des classes populaire est un faux débat parce que sur les 20 dernières années, sur les 2 millions de candidatures uniques, plus de 30% appartenaient, enfin, c'était des personnes de classe populaire et 30% de classe moyenne. Donc ça, c'était aussi pour déconstruire un peu l'image qu'on peut avoir sur la difficulté de l'engagement dont on parle. Tout à l'heure, j'ai pas répondu tout à fait à ta question, mais pourquoi est-ce que la constitution de cette liste, est-ce que c'est une démarche individuelle ou collective? Un peu comme avec démocratiser la politique, ce rapport, on l'a présenté quand même à un certain nombre de personnes pour aussi qu'ils puissent en faire quelque chose en amont des élections. Et très souvent, la réponse des partis, c'est de dire qu'en amont des élections, c'est pas un sujet, pendant, c'est plus le sujet, après, c'est absolument plus le sujet. Et donc, se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour parler de ce vrai sujet, comment est-ce qu'on fait pour qu'on arrête d'être dans une réflexion de tokenisation et qu'on puisse aussi considérer les gens qui habitent dans un territoire, qui sont engagés, qui n'ont pas nécessairement les codes, qui n'ont pas fait des études de sciences politiques, mais par contre qui ont un vrai engagement, qui sont au contact de la population. Et donc c'est vrai que même si, en tout cas moi, pour moi personnellement, vu que j'accouchais pendant la période et que du coup maintenant j'ai un nourrisson de 3 mois en plus de mes 2 autres enfants, c'était pas le contexte le plus idéal, mais c'est vrai que la politique, quand on est des citoyens non professionnels de la politique, ça arrive toujours à un moment donné où soit on a beaucoup de choses à faire côté professionnel, soit on a voilà, plein de on va dire de choses à gérer sur le plan personnel. Et est-ce que ça a été simple? Non, parce que il y a une vraie fracture entre les partis et les professionnels de la politique, les gens qui sont pas satisfaits de ce qui se passe, mais qui ont vraiment un sentiment d'illégitimité. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu vraiment toute une période d'accompagnement pour expliquer aux gens que leur parole avait, elle avait de la valeur, que en fait, qu'ils n'étaient pas à côté de la plaque, de déconstruire aussi le fait que de considérer que les élus sont forcément plus intelligents, plus brillants, plus investis, plus légitimes que les habitants. Et donc, ça a mis du temps, mais néanmoins, nous, on est la seule liste 100% citoyenne dans le 18e arrondissement. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas nécessairement ni l'argent qu'ils ont, hein, ils ont des budgets qui sont 10 fois, 15 fois supérieurs aux nôtres, ni le réseau, ni le temps qu'ils ont. Mais par contre, voilà, dans le contexte actuel, ça nous paraissait important d'y aller et de porter cette voix-là dès maintenant.
Manon Loisel, un commentaire. Vous qui êtes, toi qui es, désolé, parfois j'alterne entre le vouvoiement et le tutoiement sur ce plateau. Donc toi qui es membre du comité scientifique, je crois, de démocratiser la politique.
Ouais, bah, ce que je trouve, moi en tout cas, ce qui fait que j'ai eu envie de suivre cette aventure-là de près et que je la trouve hyper vertueuse, c'est aussi que ça permet de mettre l'accent sur un truc à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne parlent que très peu d'action publique locale, et même les municipales. On voit bien à quel point, dès qu'il y a une autre actualité, les municipales sont mises bien, bien, bien derrière, enfin, en dernier rang des préoccupations médiatiques. Et je trouve que la grosse vertu du travail de démocratiser la politique, c'est d'avoir montré qu'en fait, ces phénomènes-là existent à l'échelle locale. Et souvent, on part du principe que l'échelle locale est plus démocratique que l'échelle nationale, qu'elle est plus représentative, que les élus sont plus en proximité, et donc
oui,
ils nous ressemblent plus.
Oui, on parle d'élus de
c'est
proximité.
Faux. Voilà. Et en fait, c'est faux. Ce qu'il montre bien, c'est que c'est pas vrai. À l'échelle locale aussi, il y a des énormes mécanismes de surreprésentation des classes, de sous-représentation des classes populaires et de survisibilisation et surreprésentation des classes supérieures. Et nous, dans nos travaux avec Nicolas et notamment dans la lettre aux 500 000 futurs élus locaux, on essaie de travailler tous les dysfonctionnements de l'échelle locale. Or, il y en a plein. Il y a une hyper-concentration du pouvoir entre les mains des maires, il y a une invisibilisation, Hugo le disait, de l'échelle intercommunale, alors que c'est là que se jouent toutes les compétences, tout le budget, toutes les ressources humaines, enfin en gros une grosse partie de l'action publique se joue à ces échelles-là, et pourtant démocratiquement elles sont très peu visibilisées et mises en débat. Et donc voilà, ce que j'ai trouvé hyper vertueux, et franchement à part le travail sur la parité sociale qu'a fait DLP, la campagne elle est quand même pas non plus hyper enthousiasmante, donc j'en profite pour les remercier, parce que en fait on a besoin collectivement de se dire que le local est démocratiquement dysfonctionnel et qu'il faut qu'on se retrousse les manches collectivement pour adresser ces problématiques-là, quoi.
Donc.
Oui, je voulais juste rebondir et pour dire que ce soir, on a le lancement aussi du Pariscore de démocratiser la politique, qui permettra du coup à chacun de pouvoir savoir où se situe sa commune par rapport à cette logique de parité sociale. Et donc, pour info, par exemple, le 18e, c'est un niveau F, c'est très, 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 très surreprésenté par des classes dominantes. Et donc, nous, on propose de faire beaucoup mieux, mais je vous invite à vous connecter ce soir pour connaître notre score.
Donc, le Pariscore score. Donc c'est le score de parité de chaque de chaque liste. Pour se connecter, j'aimerais peut-être aller sur démocratiser-la-politique.org.
Exactement. Là, vous trouverez toutes les infos.
Vous trouverez les infos pour vous connecter à ça, et vous trouverez également ce fameux test de parité sociale qui permet donc de vérifier ou de tester tout simplement le niveau de représentativité sociale des candidats ou élus de votre commune. Hugo, Christy.
Oui, moi je voulais partager une intuition avec vous et peut-être vous interroger toutes les deux là-dessus, parce que tout à l'heure Ayodele donnait le chiffre de 2 millions de personnes qui se sont présentées sur les listes à un moment ou un autre ces dernières années, dont 30% de catégorie populaire et 30% de classe moyenne. Et je me demandais en écoutant ça si finalement le risque de sous-représentation concernait pas plus spécifiquement les classes populaires urbaines, parce que c'est dans les villes où... Parce que y a la grande majorité des communes françaises, évidemment, c'est des petites communes, voire des communes rurales, dans lesquelles, sur 150 habitants, il n'y a pas 150 classes supérieures, 150 personnes issues des classes supérieures. Donc, quelque part dans ce chiffre, il y a les territoires ruraux, notamment, qui viennent contrebalancer un petit peu, je pense, des territoires urbains, où d'ailleurs les indemnités sont aussi plus élevées dans les grandes villes. Je ne sais pas si là-dessus vous aviez des billes.
Oui, alors justement, on a sur les résultats de DLP, effectivement, on met en avant que cette problématique de sous-représentation des classes populaires, il intervient vraiment beaucoup dans les milieux urbains et périurbains, ce qui n'est pas tout à fait le cas, effectivement, dans les milieux très ruraux. Et donc, c'était en lien aussi avec ce que disait Manon, avec la concentration du pouvoir. Ce qu'on met en avant aussi dans ce rapport, c'est qu'on voit bien que c'est un sujet qui est transpartisan, où en fonction des, je ne vais pas dire des écuries, mais des communes, les partis vont avoir tendance à envoyer leurs meilleurs éléments faire carrière dans certaines communes, sans rentrer dans des schémas. Mais dans le 93, on sait que les partis de gauche vont plutôt parachuter leurs meilleurs éléments. Et puis, pour la droite, ça va être plutôt dans le 78, dans l'ouest Paris, enfin l'ouest de l'Île-de-France. Et donc, effectivement, cette sous-représentation, elle est d'autant plus importante que le pouvoir est grand, et donc dans les milieux urbains et périurbains c'est très très fort, et notamment à Paris on parle beaucoup de diversité sociale, mais finalement quand on regarde le Conseil de Paris on est à plus de 80% de classes supérieures, et quand on parle de d'ouvrir
c'est 80% pour le Conseil de Paris, sortant
ouais. D'accord. Et quand on va leur parler de diversité, ils vont de diversité sociale, déjà rien que ça ils vont faire la photo pour nous expliquer que il y a une pseudo-diversité. Nous ce qu'on essaye de dire aussi à travers ces listes citoyennes et puis à travers aussi le travail de démocratiser la politique, c'est qu'en fait, ces diversités de profils, existent déjà dans le territoire. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne les accompagne pas, en fait, pour celles qui ont envie de s'investir, pourquoi est-ce qu'on leur donne pas les clés pour le faire? Parce que on est quand même dans une ville où on a plus de 2 millions d'habitants, on n'est pas nécessairement obligé de faire venir des gens de tout le reste de la France pour représenter les intérêts des Parisiens. Donc c'est aussi cette logique-là dans le 18e, de faire en sorte d'avoir une liste qui représente à la fois des néo-parisiens, ce qui fait partie, on va dire, du mouvement à Paris, et des gens qui ont toujours grandi à Paris, parce que quand on est de classe populaire, on voit quand même aussi un départ. Enfin, beaucoup de personnes qui étaient en classe avec moi ont quitté Paris, et donc il y a aussi un phénomène qu'il faut analyser. Donc effectivement, dans les milieux plutôt ruraux, effectivement, on est plus avec des profils populaires, alors qu'en milieu urbain, pas du tout.
Peut-être un mini complément. Du coup, ta question, elle nous amène à décaler le regard de l'urbain vers le périurbain ou les territoires moins denses. Et moi, ma réponse, elle nous amènerait aussi à se dire, mais en fait, par quoi on mesure la mal-représentation ? Et de se dire, y a une entrée, comme le fait DLP, qui est démocratiser la politique, qui est une entrée par les niveaux de revenus et les catégories socio-professionnelles. Mais on pourrait aussi regarder d'autres indicateurs. Par exemple, avec Nicolas, on travaille beaucoup sur l'invisibilisation des locataires dans nos assemblées communales. En fait, on a une démocratie locale qui fonctionne comme une AG de copropriétaires, où on a une surreprésentation des propriétaires par rapport aux locataires. Or, on le sait, y a aussi des locataires dans les villes moyennes, dans les petites villes, ou dans les endroits de faible densité, mais ils ne sont quasiment jamais représentés, et donc leur vécu, leurs problématiques spécifiques, sont largement invisibilisées dans les décisions d'action publique, quoi.
Donc avec DLP, vous êtes capable de mesurer la parité sociale et donc vous allez sortir ce soir tout un tas de chiffres pour objectiver cette représentativité sociale sur les listes. Est-ce que tu connais déjà le score de la liste que vous présentez?
Oui, moi je connais mon score. Mais si je vous le dis, est-ce que vous allez vous connecter ce soir?
Pas d'annonce exclusive sur Cause Commune
Non, mais on fait un bien meilleur score. Et ce que je peux dire en termes de premier seuil, parce que vous savez, en termes d'éligibilité, on voit au niveau des 10%, est-ce que vous avez une représentativité qui est identique à celle du territoire? Nous, on est quasiment, on est à 29% de classe populaire, on doit être à 25%. Donc en fait, on a des classes populaires qui sont aussi en tête de liste, et donc c'est important. Et dans notre liste, on a aussi des profils de transfuges de classe qu'on n'a pas voulu pénaliser aussi, qui sont de milieux populaires comme le moi au départ, mais qui aujourd'hui occupent des métiers de consultants ou d'avocats ou autres, qui font que ils vont apparaître en classe supérieure, mais néanmoins ils viennent de classe populaire. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on veut raconter. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes issu de la diversité sociale ou ailleurs que vous êtes forcément, que vous pouvez pas avoir des trajectoires autres. Et donc nous aussi, c'est ce qu'on veut raconter. On veut qu'on arrête aussi un peu ces assignations en fonction des origines sociales des uns et des autres.
Parce que c'est vrai qu'il y a la composition de la liste, mais il y a aussi la place sur la liste. Et ce que vous montrez avec DLP, c'est que finalement beaucoup de listes peuvent être relativement bien paritaires socialement, mais que par contre les personnes tout en haut, en haut de la liste ou dans le premier tiers ou dans la première moitié de la liste, qui sont ceux qui auront le plus de chances d'être élus, auront peut-être.
Il n'y a pas beaucoup de listes qui sont paritaires socialement. Ça dépend beaucoup des territoires, effectivement, de la logique. Est-ce qu'on est dans un milieu urbain, périurbain? Est-ce qu'on est dans un milieu rural? Est-ce qu'il y a des enjeux de pouvoir? On a aussi cette espèce de diagonale du vide aussi au sein de la France où là, ça ne se bouscule pas vraiment. Et au contraire, c'est plutôt la difficulté d'aller trouver des élus. Et une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, quand on regarde les listes de manière très précise, on voit qu'en tête de liste et dans le premier tiers, on a plutôt des cadres supérieurs, des personnes professionnelles de la politique. Parfois, sur certaines listes que je ne dévoilerai pas, certains sont attachés parlementaires, mais ce n'est pas précisé. Donc voilà, il y a toujours cette logique de très peu de parité sociale. Et finalement, quand on a un peu de classe populaire, c'est plutôt pour maquiller. Et juste, c'est vrai que sur la logique de tokenisation, des fois, on voit certaines listes qui vont mettre en avant des gens en fonction de leur parcours et dire qu'ils sont extraordinaires. Et puis, vous allez voir qu'ils sont dans le tiers inférieur de la liste. Et donc, ça, c'est très problématique.
Oui, je pense que pour bien comprendre ça, il faut aussi interroger un peu c'est les partis aussi qui sont à la manœuvre, c'est les partis politiques qui investissent, qui construisent les listes, qui décident de l'ordre de chacun dans la liste. Or, les partis politiques, ils ont aussi, ils raisonnent à l'échelle de gagner leur élection, mais ils raisonnent aussi à l'échelle de prospérer de manière plus générale, et pour ça, il faut avoir des professionnels de la politique. Or, c'est dans les grandes villes qu'on trouve les postes les mieux payés, maire, adjoint, ou élu, conseiller municipal. Un conseiller de Paris, par exemple, c'est payé 3 000 euros mensuels, c'est l'indemnité. Donc, c'est logique que on essaye de placer ces éléments ici. Et donc ça, je pense que c'est à bien avoir en tête pour comprendre aussi des dynamiques électorales qui vont avoir lieu là dans quelques jours après le résultat du premier tour, pour comprendre qu'un parti comme Reconquête, par exemple, qui se présente avec Sarah Knafo à Paris, n'a aucun intérêt à se retirer parce qu'ils ont très peu d'élus à l'échelle nationale. Et or, il leur faut des cadres, donc ils vont essayer d'avoir des élus qui seront professionnalisés, notabilisés.
Manon Loisel.
Et oui, c'est vrai. Et en même temps, échelle locale égale énorme part des candidats sans étiquette et des listes sans étiquette. C'est quand même le principal pourvoyeur de candidats. Et en fait, à mesure que les années passent, on a de plus en plus, tu vas peut-être en parler, de listes qui se présentent justement sans étiquette. Et pourtant, on voit ces mêmes effets justement de périphérisation de tout un tas de gens qu'on va mettre soit en bas des listes, comme le disait Ayodele, soit qu'on va effectivement mettre, si vous êtes racisé, on va vous mettre en charge de la lutte contre les discriminations. Si vous êtes une femme, on va vous mettre à la petite enfance. Enfin, c'est des mécanismes bien connus, quoi. Et ça se fait aussi dans les endroits, dans des espaces sans parti, sans doute parce qu'il y a une forme de confusion sur ce qu'on attend des élus. On a tout de suite l'impression qu'on attend forcément des élus une expertise technique. Et parce qu'en fait, on invisibilise un énorme acteur qui est l'administration, qui administre à l'échelle locale. Et donc, il y a une forme de confusion sur ce qu'on attend vraiment des élus. Et je pense qu'à force d'en faire des super décideurs et des super experts, effectivement, on a l'impression qu'il faut mettre derrière des gens qui sont très capés, qui ont fait des études, etc. Et en fait, c'est peut-être de là que le bas blesse, c'est qu'on ne se comprend pas sur ce qu'on attend véritablement des représentants, à savoir une vraie capacité d'écoute, de représentation, etc. Des choses qu'on ne travaille pas du tout en amont, ni dans la campagne, ni une fois qu'on est élu.
Oui, et c'est peut-être le serpent qui se mord la queue, parce que plus on donne de place à ces personnes-là, plus elles ont d'expérience et plus elles vont avoir donné l'impression qu'elles sont plus expérimentées pour occuper ces fonctions. On va marquer une pause musicale et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de Ainsi va la ville. On écoute « Les loups sont entrés dans Paris » de Serge Reggiani.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfert, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ces 50 lieues dans une nuit que le. Dès que ça flaire, une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris.
De retour sur le plateau de Ainsi va la ville, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM et nous sommes en direct avec Ayodele Ikuezan, Hugo Christy et Manon Loisel pour parler de cette campagne municipale, qui va bientôt s'achever vu que le premier tour aura lieu dimanche prochain, dimanche 15 mars, et le deuxième tour... S'il y en a, si personne n'est élu au premier tour à Paris, ça risque d'être le cas.
Il y aura
a priori un deuxième tour le 22 mars. Donc Peut-être, voilà, peut-être qu'on peut parler un peu des thématiques de campagne. On se souvient que il y a 5 ans, il y a 6 ans, en 2020, on avait eu ce que les médias avaient appelé une vague verte, avec beaucoup de candidatures d'écologistes qui avaient remporté les élections, et donc des mairies Lyon, Bordeaux, Marseille qui étaient passées verte, parfois appui avec des appuis de listes citoyennes, comme aussi à Poitiers. Et donc là, potentiellement, il va y avoir, potentiellement, les écologistes vont perdre des mairies, avec aussi, entre-temps, peut-être un sujet, une thématique écologiste pour laquelle on a observé plein de recul dans la politique à tous les niveaux. Est-ce qu'on assiste à un backlash écologique dans cette campagne, Manon?
Alors, dans la campagne et pendant le mandat même, en fait, effectivement, quand tu regardes par rapport à 2020, c'était à la fois les grandes villes, quelques grandes villes avec des énormes surprises. Hein, Lyon qui bascule écolo, c'était une énorme surprise. À la sortie d'un scrutin tout à fait particulier, vous vous souvenez, on était dans un entre-deux-tours qui avait duré 2 mois et demi, 3 mois. À la sortie du Covid, les sujets dont on parlait, c'était beaucoup les questions de cadre de vie, de santé, de solidarité. Vous vous souvenez de tout ce truc sur le monde d'après, le fait de ne pas retourner à la normale.
Je ne me souviens pas du tout.
Ouais, visiblement, beaucoup ne s'en souviennent pas. Tu es assez représentatif. Et donc, il y avait eu une bascule des grandes villes, de pas mal de grandes villes avec des surprises, mais il y avait eu aussi, globalement, moi je le vois parce que je suis consultante et donc j'accompagne plein de territoires très variés, notamment des territoires ruraux, périurbains et tout, il y avait eu globalement une sorte de repriorisation même des communes ou des intercos plutôt marquées à droite, au centre-droit, de repriorisation de l'écologie. Donc c'était, on était à la sortie de 2015, Marche pour le climat, COP21, etc., etc. Et en fait, là, ce qui s'est passé petit à petit à mesure du mandat et qu'on a observé nous très concrètement, c'est qu'il y a des formes de crispation à mesure qu'on arrive à la mise en œuvre des processus de transition écologique. C'est-à-dire que pendant toute une période, on écrivait des grands schémas avec des objectifs à moyen et long terme très très ambitieux. Et puis en fait là, plus on s'est rapproché de la mise en œuvre, par exemple des zones à faible émission, du zéro artificialisation net, de tout un tas de mesures qui sont en fait contraignantes, plus on s'en est rapproché et plus on a senti voilà, des formes de crispation très fortes sur tout un tas de sujets. Et c'est un peu ça le backlash, c'est de dire oui, on voit bien que dans les sondages, les Français continuent à dire qu'il faut porter l'écologie et la mettre au premier rang des préoccupations. Pour autant, à chaque fois, et beaucoup quand on a essayé de mettre en œuvre des logiques réglementaires ou de contraintes pour essayer de mettre en œuvre la planification écologique, bah en fait, patatras, ça a été très compliqué, quoi. Donc le backlash, c'est ça, et les élus, là, pendant la campagne, en gros, globalement, on entend moins parler d'écologie parce que les élus sont un peu pris, ou les candidats sont un peu pris en étau entre ceux qui leur reprochent d'en faire trop et ceux qui leur reprochent de pas en faire assez. Et donc globalement, c'est très difficile de continuer à parler d'écologie en 2026, alors même que une grande partie des maires sont en train de gérer les effets des inondations, des tempêtes, des canicules qui vont arriver dans 3 mois. Enfin, on voit bien aujourd'hui que les élus sont bien au clair sur le fait que c'est un enjeu totalement central, mais ils savent pas très bien comment le prendre parce que voilà, plus on va s'approcher de potentielles contraintes et plus ça va être difficile à porter politiquement.
Ayodele, est-ce que du côté du terrain et des élus locaux, est-ce que déjà tu ressens ça, peut-être cet éloignement que peuvent avoir les gens des considérations écologiques et comment est-ce que vous, en tant que liste citoyenne locale, vous vous emparez de ces sujets?
Alors, je dirais pas un éloignement des gens de ces différents sujets. C'est vrai qu'on aime bien parler d'écologie et en fait, on se rend compte que les classes populaires, c'est ceux qui polluent le moins. Je pense que c'est la manière dont ça a été porté jusqu'à présent, où on a plus l'impression qu'il y a une opposition entre l'écologie pour les riches et l'écologie pour les pauvres, avec une écologie où on va penser à des espaces de respiration pour des quartiers où les gens sont plus ou moins aisés parce que ils vont militer pour avoir des espaces un peu plus vert. et que ça va déporter de la pollution dans d'autres quartiers, et donc ça va créer des points noirs. Voilà, dans le 18e, c'est très simple, quand la circulation se fait pas, on va dire, du côté de Montmartre, c'est qu'elle se fait au niveau du boulevard périphérique, et donc boulevard périphérique, classe populaire. Et donc forcément, en termes d'acceptabilité, ça devient très compliqué, parce que c'est à des gens à qui on, pardon, on va dire qu'il faut faire évoluer la ville, mais qui, eux, finalement, ne voient pas trop les externalités positives de cette évolution. Donc, nous, ce qu'on dit sur l'évolution, que ce soit la fermeture des rues, la végétalisation, c'est vraiment d'anticiper un peu aussi les conséquences que ça pourrait avoir dans d'autres endroits, de faire en sorte d'avoir une communication très transparente sur comment est-ce qu'on aborde ces sujets. Il ne faut pas que ce soit que des mesures qui fonctionnent en fonction de si les gens sont mobilisés au niveau du vote ou pas. Aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir en tête. Et puis après, il y a des initiatives qui fonctionnent très très bien à l'échelle locale. J'ai envie de citer par exemple un jeune qui a travaillé sur le sujet de l'alimentation auprès des jeunes qui vont faire du foot, en faisant en sorte qu'ils puissent mieux connaître la saison des fruits et des légumes, faire en sorte que sur la nourriture, qu'on soit pas que sur du fast-food et des chips et des sodas, faire aussi en sorte que sur la végétalisation, on fasse participer les habitants et les habitantes. Il y a aussi dans certaines écoles la notion et le contexte de classe dehors où vous allez avoir des enfants qui vont aller faire qui vont avoir école la journée ou l'après-midi dans un jardin et qui donc vont apprendre aussi d'autres choses. Donc il y a aussi cette sensibilisation qu'on peut avoir à travers les enfants, à travers des projets qui sont portés collectivement et qui vont mélanger les publics. Je pense que ce qui est aujourd'hui fracture, en tout cas cette question-là dans un territoire comme le 18e arrondissement par exemple, c'est que sociologiquement c'est très 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 c'est fragmenté en fait, et il faut qu'on puisse faire en sorte qu'on ait autant des gens de classe populaire, de classe moyenne, de classe supérieure qui soient autour des projets, et que quand vous avez des jardins partagés, que ce soit partagé à l'échelle d'un quartier et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit partagé auprès de quelques-uns. Donc je pense que c'est plus ça aujourd'hui, et de parler de l'écologie, c'est vrai que pendant un temps c'était attention, ça va être la fin du monde, et il y avait en plus cette concurrence entre la fin du mois et la fin du monde. Donc expliquer aussi que l'écologie, l'environnement, ça a des impacts, mais trouver des solutions, parce que c'est très anxiogène quand on vous dit que vivre à côté du périphérique, c'est mauvais pour la santé, mais que vous n'avez pas la possibilité d'aller vivre ailleurs. Donc voilà, c'est aussi un juste équilibre entre tout ça, qui est pas simple à trouver, hein, je le reconnais, mais c'est sur ces sujets-là qu'il faut s'interroger, sur qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution à des gens qui ont l'impression de subir leur environnement au jour le jour.
Oui, d'abord peut-être un tout petit disclaimer sur le fait que le backlash écologique n'a pas encore eu lieu, les élections sont à venir, donc c'est vrai que ça va être un test, que tous ces élus verts qui sont arrivés sont aujourd'hui en danger, mais enfin ils sont en danger comme tous les maires sortants, c'est le jeu de la démocratie.
Oui, par principe, si t'es élu, t'as plus de chances de perdre ton poste que si t'es pas élu.
On est d'accord. Ceci dit... Ça va être un vrai test, notamment sur les questions de méthode, en fait, parce que il y a un autre terme qui a émergé ces deux dernières mandatures, en même temps que le monde d'après, etc. C'était le terme d'état d'urgence climatique. Il y a beaucoup de collectivités qui sont proclamées en état d'urgence climatique, en disant, en gros, effectivement, on va sortir des documents réglementaires feutrés, des SCOD, des réglementations européennes, du ZAN, etc., pour passer à l'action avec des opérations visibles, voire spectaculaires, des ouvertures d'espaces publics, des fermetures à la circulation automobile. On pense aux berges de Seine à Paris, etc., qui ont été l'objet de frictions et avec une part des citoyens et avec l'État. On pense à la réduction de la vitesse sur le périphérique à Paris aussi, qui a été l'objet de toute une controverse. Donc il y a eu cette volonté un peu assumée d'aller au contact justement de la controverse, de quitter le consensus ou le faux consensus, le consensus de façade des documents où on se met un peu tous d'accord et on se donne du temps et on y va tranquille, etc., pour donner à le voir. Et c'est
mais
ça
avec quel résultat, du coup ça a marché, la réduction de la vitesse sur le périphérique? Je crois que les mesures de...
Sur la qualité de l'air, c'est plutôt probant pour le moment. Oui, oui, absolument, de ce point de vue-là.
Sur la sécurité routière, la qualité de l'air, enfin, j'ai quand même l'impression que, qu'on le veuille ou non, les signaux sont plutôt verts. D'ailleurs, on regarde que, il me semble que dans la campagne, il n'y a pas de remise en question de cette mesure-là, qui était évidemment au moment de le faire passer.
Il me semble que la candidate d'extrême droite souhaite remettre la vitesse à 70 km/h sur le périphérique.
Non, mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est ce que dit Manon, ça vaut aussi sur tout le reste aussi. C'est là où c'est dur de détricoter cette histoire de backlash écologique. C'est-à-dire que, prenez les berges de Seine, je ne sais pas si vous vous souvenez des scènes, sans mauvais jeu de mots, au Conseil de Paris, où c'était vent debout contre ce projet liberticide qui allait asphyxier Paris, etc. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Et même quand Rachida Dati, la candidate de droite, parle de retransformer la rue de Rivoli, c'est pas du tout pour la remettre dans l'état d'avant. C'est une modification relativement mineure de partage de l'espace public, etc. Donc, il y a backlash écologique au sens... Il y aura peut-être au sens où des élus étiquetés Europe Écologie Les Verts perdront, mais peut-être que leurs idées aussi ont largement infusé. On voit des militants du vélo, de la qualité de l'air, de la biodiversité, etc., qui ont intégré des listes qui sont très loin du champ de l'écologie politique au point de départ.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point l'écologie, voilà, désormais, enfin, ça touche à l'urbanisme, ça touche à la mobilité. Toi, tu as tout de suite fait le lien avec l'alimentation, la santé, et en réalité, ouais, il s'agit d'un tout. Et alors, là encore, comment faire pour bien mettre en lien ces sujets-là avec les liens sociaux, parce que finalement, l'accès à une alimentation de qualité, par exemple, une alimentation bio ou juste pour être en bonne santé, eh ben, on sait que c'est plus coûteux pour des familles ou pour les services publics, pour les cantines, etc. Et on voit, alors, est-ce que d'un côté, on a l'impression que désormais la bataille est gagnée et que à droite et à gauche, on est d'accord sur plein de choses et que finalement ça a avancé. Et d'un autre côté, on en reste aussi peut-être. Est-ce que l'écologie est encore une affaire de gauche ?
Alors moi, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais en tout cas, je pense que là où on avance, c'est que maintenant, on sait que l'écologie n'est pas une question consensuelle. Et en fait, je pense que pendant très longtemps, on a voulu nous faire croire qu'on avait tous à y gagner d'appliquer la transition écologique. Or, maintenant, on voit bien que c'est une question qui est conflictuelle, qu'on va en fait avoir affaire à des ressources en tension, l'eau, l'air pur, l'espace public, tout ça, ce sont des ressources en tension sur lesquelles il y a des concurrences, et que du coup, la question maintenant, c'est de politiser et de se dire en fait derrière chacune des mesures, qui perd, qui gagne. Quand je mets en place des pistes cyclables, qui perd, qui gagne. Quand je mets en place une ZFE, une zone à faible émission, qui perd, qui gagne. Et en fait, la ZFE, on nous a pendant... Enfin, c'était... Les zones à faible émission, pour moi, c'est un objet qui est hyper intéressant. Ça fait quand même 20 ans que le truc était dans les cartons par des circulaires européennes, par tout un tas de projets de loi, etc. Et puis, petit à petit, plus on s'est rapproché de la mise en œuvre et plus on s'est dit, ah, c'est quand même un peu compliqué de demander à des gens qui habitent en périphérie de plus rentrer dans des territoires parce que leur bagnole est pourrie. Mais leur bagnole est pourrie, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en racheter une autre. Et donc, c'est quand même assez fou parce que on a fait passer cette affaire pour une affaire purement technique. La question, c'était comment on allait faire en sorte de mettre en place ce dispositif des zones à faible émission, de rentrer dans le calendrier, de faire en sorte que les gens comprennent cette histoire de critères, critères AIR, vous êtes critère 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que vous pouvez encore rentrer dans un périmètre ? On pensait que c'était une question de pédagogie, alors qu'en fait, maintenant, on est bien au clair sur le fait que, en matière de transition écologique, il faut politiser les enjeux, c'est-à-dire se poser la question de qui perd, qui gagne, et d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus redistributif possible. Et donc, en ce sens-là, moi, je trouve que c'est plutôt assez vertueux, et je trouve que la campagne est intéressante parce que on le voit bien maintenant, quand on met en place des pistes cyclables, c'est pas juste développer un mode doux, c'est aussi dire, bah ouais, on va prendre de la place à la voiture, et donc, comment on fait en sorte que... Enfin, qui on met à contribution et qui on met pas à contribution ? Ça peut être compliqué pour certaines personnes, effectivement, parce qu'elles ont besoin de leur voiture, parce qu'ils sont artisans, parce qu'ils ont du matos, parce qu'ils vont loin, donc voilà, il y a un enjeu aussi à se dire derrière le climat ou la transition écologique, bah en fait, il y a plein de gens avec des difficultés spécifiques et de se poser la question. La politique, c'est ça, hein, de pour qui on essaye de mettre à contribution et qui, au contraire, on essaye d'accompagner au plus près, quoi.
Ouais, moi je suis d'accord, mais je pense qu'il y a la question aussi des moyens et comment est-ce qu'on accompagne en fait aussi ces décisions politiques. Quand on parle par exemple effectivement des ZFE, il y avait la question de la mobilité de manière générale et de qui travaille dans les milieux urbains et périurbains. Sur Paris, ça crise aussi parce qu'en fait la réalité c'est que Paris ça devient tellement cher que les premiers, enfin les personnes qui travaillent, qui font tourner la ville n'ont plus les moyens de vivre dans Paris. Et donc quand on pose la question du vélo, on pose pas la question de la personne qui habite à 1h30 de Paris, qui doit prendre les RER et qui ne peut pas venir. Et donc je pense que c'est ça aussi, c'est comment est-ce qu'on pense la ville pour les gens qui y habitent, mais qu'on pense aussi la ville pour les gens qui y travaillent. Aujourd'hui c'est aussi ça, c'est trouver ce juste équilibre. Effectivement sur le vélo c'est très pratique, on peut aller très vite partout, dès lors où on est plutôt en capacité de faire du vélo. Nous on porte aussi des mesures pour que les gens puissent apprendre à faire du vélo, parce que apprendre à faire du vélo quand on est dans Paris intramuros, c'est pas tout à fait évident. Ça veut dire que c'est plutôt quand les gens partent à la campagne en vacances qu'ils apprennent à faire du vélo. C'est pas au milieu de la route avec toute la circulation. Et donc il y a cette logique aussi de les gens qui peuvent pas faire de vélo, qui peuvent pas prendre les transports, qui sont à mobilité réduite. Comment est-ce qu'on les accompagne, eux, dans un environnement où ils vont se sentir de plus en plus isolés? Donc moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment... Aujourd'hui, on veut faire une transition écologique, mais avec moins de moyens, sans accompagner les gens. On veut que les gens mangent bien sans qu'ils aient les moyens d'acheter... Alors, le bio, c'est cher, mais par exemple, de l'agriculture raisonnée. On veut que ça pollue moins, mais du coup, on oublie complètement que les médecins, il faut qu'ils puissent circuler. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le déplacement des professionnels de santé. Le temps qu'on va mettre pour arriver aux urgences d'un hôpital, aujourd'hui, vous pouvez pas y aller en vélo. Comment est-ce que vous faites quand tout est bouché? Et donc, il y a cette réflexion autour des usages. Et donc, c'est vrai que c'est pas simple. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir sociologiquement une diversité dans les représentants, parce que là, vous allez pouvoir toucher aussi aux angles morts que vous avez pas, vous, personnellement. Si vous êtes cadre et que vous travaillez à 20 minutes de chez vous et que vous prenez votre vélo, c'est pas tout à fait pareil si la personne qui doit travailler dans la cantine, tout le sujet aujourd'hui aussi du recrutement à l'hôpital, que ce soit dans les écoles, c'est cette question-là fondamentale qui se pose, c'est-à-dire des gens qui n'habitent plus à Paris, mais même les enseignants qui s'éloignent. Comment est-ce qu'on fait pour garder la qualité des structures qui fonctionnent avec ces personnes-là qui n'ont plus les moyens d'habiter à Paris, mais c'est Paris comme dans les grandes villes. Et donc c'est ça aussi, je pense qu'il faut qu'on adresse comme sujet, de ne pas être que dans une logique de s'occuper que des personnes qui habitent là, mais vraiment de penser la ville dans toute son échelle.
Merci pour ce plaidoyer pour une appréhension métropolitaine de ces enjeux à Iodélé, Iquaisan. Peut-être on se dirige vers la fin de l'émission. Alors moi, je voulais vous poser poser des questions et vous choisirez auxquelles vous voulez répondre. Soit un petit pronostic pour ces élections municipales, si l'une ou l'un d'entre vous veut se lancer, ou bien peut-être un souhait de ce que vous voudriez voir vous se réaliser à l'occasion du mandat à venir et qui devrait figurer en haut de l'agenda des futures équipes pour traiter au mieux ces questions à l'échelle locale. Manon Loisel,
c'est moi qui m'y colle.
Tu veux commencer ?
Moi, je fais pas trop de pronostics. D'abord parce que je suis nulle, et ensuite parce que je rejoins Iodélé. Enfin, moi, ce qui m'intéresse quand même le plus, c'est bien la question métropolitaine. En fait, c'est moins l'échelle des 35 000 communes, même si évidemment, je vais regarder tout ça de très près, que derrière les 35 000 mini élections présidentielles qu'on veut nous vendre, en fait, derrière, il y a des transformations à des plus grandes échelles, et c'est ça qui m'intéresse. Par contre, qu'est-ce que j'aimerais mettre en haut de la pile des différentes collectivités, en fait, qu'elles soient communales ou intercommunales, c'est la question de la démocratisation. C'est continuer à dire qu'en fait, on en est très loin de la qualité démocratique à l'échelle communale et à l'échelle intercommunale, qui est presque encore plus en friche. Mais donc, je mettrais ça en haut. Ça veut dire la place des contre-pouvoirs en interne et en externe, la représentativité des différents candidats et des élus, la qualité du débat en interne, parce que franchement, on n'est pas bon dans nos collectivités pour débattre. Aller regarder un peu ce qui se passe Lorsque les conseils municipaux ou les assemblées communautaires se réunissent, vous allez voir, pour l'instant, on ne sait pas bien débattre, alors même que les sujets de conflictualité, les sujets compliqués à traiter vont être énormes. Enfin, Ayodele tout à l'heure disait, on va avoir de moins en moins de moyens. À partir de 2026, c'est pas la peine d'avoir une boule de cristal pour savoir qu'il va y avoir des problématiques structurelles de moyens. Et donc, en fait, les questions qui vont se poser, c'est sur quoi on prend ? Et là, on est dans une campagne où on nous fait des programmes avec des promesses du toujours plus, mais en fait, ce qui va se passer, c'est plutôt comment on discute des coupures budgétaires qui vont impacter drastiquement et durement tout un tas de gens. Et donc, comment est-ce qu'on démocratise la discussion sur les coupures ? C'est un gros sujet. Donc voilà, en haut de la pile, je mettrais qualité démocratique.
Ayodele, toi, maire du 18e arrondissement, qu'est-ce que tu fais ?
Bah déjà, du coup, en pronostic, il faut qu'on gagne. nous, ce qu'on fait déjà, enfin, on applique le programme. On a travaillé sur une centaine de propositions, que ce soit au niveau de la dignité, donc dans les logements sociaux, mais privés aussi, sur comment est-ce qu'on lutte contre l'insalubrité et une rénovation des logements sociaux. Sur l'alimentation, on porte des propositions, notamment sur la sécurité sociale de l'alimentation. On fait en sorte, effectivement, de porter des propositions sur la démocratisation des décisions locales, notamment en mettant en place un conseil des écoles qui intégrera aussi des parents d'élèves en plus de l'éducation nationale et de tous les acteurs. Vraiment, ce qu'on veut faire, c'est de se dire qu'il n'y a pas de sujet tabou. En fait, aujourd'hui, à l'échelle locale, et il faut qu'on arrête de nationaliser tous les débats. Il y a des choses qui doivent être faites à l'échelle municipale. C'est le premier échelon, c'est celui de proximité. Et donc, nous, on porte des mesures vraiment sur des sujets de proximité, que ce soit l'école, les associations, la culture, le sport et le logement. Et donc, c'est de mettre en place toutes ces propositions-là et puis de faire en sorte qu'on ait des élus qui représentent beaucoup plus la diversité de notre arrondissement et recréer du lien. Aujourd'hui, ce qu'on peut avoir dans la rue, c'est le lien, les élus, on les voit pas, on sait pas trop ce qu'ils font. Bah, c'est de dire que les élus, ils sont dans la population, ils sont avec vous, on est ensemble et on va pas faire pour vous, mais avec vous.
Merci. Hugo, le mot de la fin.
Un pronostic, Hugo.
Pronostic très court. Moi, je vais regarder quand même de très près ce que fait LFI dans ces élections, indépendamment des débats nationaux, des polémiques, etc. Parce que c'est quand même la première fois où ils aspirent à vraiment prendre la main d'exécutif et d'aller à la manœuvre. Et je pense que quoi qu'on pense d'eux, ça va faire du bien à tout le monde. En fait, ça va faire du bien de les voir et eux, ça va leur faire du bien d'exercer ces responsabilités-là. Et quant au fond, j'en ai plein mes poches. La semaine dernière, on parlait des propositions de surface plus utiles pour un immobilier d'intérêt général. Mais là, peut-être que j'appuie les propositions de Manon sur la métropolisation et le Grand Paris en particulier, et surtout en nous rappelant que le Grand Paris n'est pas que l'affaire des banlieusards, comme on dit parfois maladroitement, mais qu'il y a aussi un Grand Paris des petits Parisiens. Un tiers des actifs qui vivent dans Paris bossent en dehors de Paris, sans parler de ceux qui vont en boîte à Montreuil, qui vont enterrer un proche à Saint-Ouen, qui vont faire un tennis à Vincennes, etc. Donc le Grand Paris, ça concerne absolument tout le monde et c'est là que se jouent les grandes questions, notamment l'enjeu du logement.
Merci à tous les trois. Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. On mettra les ressources et les références dont on a parlé sur la page de l'émission. Surtout, donc, d'ici là, n'oubliez pas d'aller voter dimanche prochain ou de faire une procuration. Apparemment, c'est très facile, beaucoup plus facile qu'avant pour ceux qui avaient un mauvais souvenir de l'administration de la procuration. Merci à Ayodele Ikwezan, Hugo Christie, Manon Loisel d'être venus nous parler de votre rapport à la ville sur le plateau de Cause Commune. Merci à Olivier en régie et à bientôt pour un nouvel épisode de Ainsi va la ville.